Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'intéresse aux couleurs qui habillent nos maisons, nos villages. Mais on va regarder ça sous un angle un peu différent.
Ah oui.
Oui, plutôt que de parler juste de palettes de couleurs, on va suivre les observations d'un architecte, Luc Néplez, lors d'une conférence. Il nous montre comment la couleur est profondément liée aux matériaux, aux techniques, aux gestes des artisans d'autrefois.
C'est passionnant, ça.
Notre mission, si on veut, c'est de remonter aux racines de la couleur et de comprendre pourquoi le savoir-faire, c'est si crucial.
Absolument. Et on part d'une période, pas si lointaine finalement, où le fameux ton pierre, ce beige un peu passe-partout, et puis les enduits au cimin, dominaient. Hein, ça gommait un peu toute la diversité régionale.
C'est vrai.
Et puis, petit à petit, il y a eu une redécouverte des techniques traditionnelles, notamment la chaux. Des initiatives comme celle de l'école d'Avignon ont beaucoup aidé.
D'accord.
Et comprendre d'où vient la couleur, est-ce qu'elle est dans le matériau lui-même, le sable par exemple, ou est-ce un pigment qu'on a ajouté? Et comment on l'applique? C'est vraiment la clé pour apprécier ce qu'on voit. Et puis, surtout pour intervenir correctement aujourd'hui.
Justement, Luc Néplez, il commence par une critique assez forte de ces palettes de couleurs qu'on nous présente souvent.
Ah oui, les nuanciers.
Oui, dans les bides de rénovation, les PLU, il dit que ce sont souvent juste des rectangles de couleurs sur papier, complètement déconnectés de la réalité du mur, de la matière.
C'est exactement ça. On imagine bien la difficulté, hein. Comment un aplat de couleurs, même bien choisi dans un nuancier industriel type NCS, pourrait rendre la vibration, la texture d'un badigeon à la chaux qui joue avec la lumière.
Impossible. On perd tout.
On perd la matière, la vie du mur. Et cette abstraction, c'est un peu l'héritage de cette époque du ton pierre quasi obligatoire.
Ce fameux ton pierre.
Oui, Nel peut raconte, non sans humour, qu'on l'appelait parfois la couleur Île-de-France, et ce, même jusqu'en Espagne. Ça montre à quel point c'était standardisé.
Ah oui, quand même.
Donc, la redécouverte des techniques à la chaux, ça a redonné en quelque sorte le droit à la couleur. Mais il faut être honnête, hein. Au début, quand les premières opérations façades ont été lancées pour encourager la rénovation,
oui.
La compréhension vraiment fine des techniques et des couleurs adaptées en bâti ancien, elle était souvent assez limitée. L'accompagnement se contentait parfois de donner quelques conseils de couleurs, sans forcément exiger une vraie qualité dans la mise en œuvre, dans la technique traditionnelle elle-même.
D'accord, c'était un peu superficiel au début.
Voilà, un peu.
Alors pour y voir plus clair, Néplez, il propose de distinguer deux grandes familles de couleurs, deux origines sur ces façades anciennes. La première, ce sont celles qui viennent directement de l'environnement.
Exactement. Les couleurs qui sont dans les matériaux locaux, les sables qu'on utilise pour faire l'enduit, les terres, les pierres du coin. Il donne un exemple très parlant à Roquebrune.
Ah oui.
Là-bas, la teinte de l'enduit, c'est tout simplement la couleur naturelle du sable local qui a servi à le fabriquer. Il n'y a rien d'autre, pas de pigments ajoutés. La couleur est dans la masse.
Incroyable. Et la deuxième famille, alors?
Ce sont les couleurs qu'il appelle choisies. Là, on fait intervenir des pigments, des ocres, des terres colorantes naturelles qu'on va mélanger à la chaux ou à un autre liant. Et ces couleurs, on les applique avec des techniques spécifiques.
Comme le badigeon.
Voilà. Le badigeon, la peinture à la chaux, c'est l'exemple le plus connu. Néplez montre une façade en Languedoc, datée de 1850, avec des badigeons colorés et même des décors peints. Et il fait une remarque historique très intéressante.
Laquelle ?
L'apparition de ces techniques colorées dans cette région, elle coïncide avec une vague d'immigration italienne. C'est donc probablement un savoir-faire qui a voyagé avec les artisans.
C'est fascinant ça, le lien entre migration et technique. Ça fait penser à l'Italie, justement, qu'on imagine souvent comme très, très colorée.
Oui, mais là aussi, Naples apporte des nuances importantes. Il prend l'exemple de San Gimignano, en Toscane, célèbre pour ses tours médiévales. Là-bas, tout est très minéral. Les couleurs, ce sont celles de la pierre, des enduits faits avec les sables locaux, pas de badigeons aux couleurs vives.
D'accord.
Par contre, si on va sur la côte Ligure, à Portofino, ou dans les Cinque Terres, là, oui, c'est une explosion de couleurs. Façade peinte, ocre, rouge, vert, beaucoup de trompe-l'œil. Mais, et c'est là que c'est intéressant, même dans ces endroits très colorés, Naples observe que la palette de pigments réellement utilisée par les artisans d'autrefois était souvent très réduite.
Ah bon? On a l'impression qu'il y en a partout.
Oui, mais l'harmonie visuelle, elle ne vient pas d'une multitude de teintes différentes. Elle vient à la maîtrise parfaite de quelques couleurs seulement. Ces artisans, ils connaissaient leurs pigments par cœur. Ils les manipulaient tous les jours. Pas juste pour les façades, d'ailleurs, mais aussi pour les décors intérieurs, les meubles.
Donc, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de couleurs, mais la maîtrise d'une palette limitée, mais cohérente, éprouvée.
C'est exactement ça. Pour Naples, retrouver et réutiliser ses couleurs anciennes, ce n'est pas juste de la nostalgie. C'est retrouver des harmonies qui fonctionnent, qui ont une histoire. Et surtout, c'est indissociable des techniques et des matériaux qui permettaient de les obtenir.
C'est un peu l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui avec les nuanciers infinis.
Voilà. C'est un peu l'antidote à cette profusion de choix qui, faute de compréhension des matières, mène souvent à des choix un peu arbitraires ou des associations hasardeuses. Comme il dit, plus on a de choix, plus il faudrait avoir des raisons de choisir.
C'est bien dit. Alors justement, explorons un peu ces techniques. Commençons par les badigeons, ces fameux laits de chaux. Naples montre des exemples assez incroyables, non ?
Oui, il a des photos prises dans le Lot, c'est assez frappant. Sur un mur en très mauvais état où l'enduit a quasiment disparu, eh ben, en regardant de très très près, entre les grains de sable qui restent, on devine encore des traces de badigeons.
Et ça date de quand ?
De 150 ou 200 ans. Ça montre bien que ce n'est pas juste une petite couche décorative qui s'en va à la première pluie.
Il insiste beaucoup sur le rôle technique du badigeon d'ailleurs, hein. Ce n'est pas que de la déco.
Tout à fait. Le badigeon, c'est la couche d'usure. C'est lui qui prend, en quelque sorte, pendant que l'enduit en dessous est protégé. Naples s'estime qu'un bon badigeon, ça protège l'enduit pendant au moins 20 ans.
Ah oui, quand même.
Oui, pendant que le badigeon s'use lentement sous l'effet des intempéries, l'enduit reste intact. Il a pu comparer des façades voisines enduites à la même époque. Celles qui avaient reçu un badigeon étaient en bien meilleur état un siècle plus tard.
Et il y a cette anecdote surprenante, le badigeon comme anti-graffiti.
Oui, c'est une conséquence de son caractère sacrificiel. Si quelqu'un fait un tag sur un mur à la chaux, hop, on reprend un peu du mélange d'origine, on repasse une couche et le tag disparaît. C'est comme neuf.
C'est génial ça!
Et il raconte même qu'on peut garder un seau de badigeon liquide bien fermé pendant des années. Il suffit de le remuer, il est prêt à l'emploi. Ça ne pourrit pas, ça ne moisit pas, grâce à la chaux.
C'est là qu'on voit l'intérêt de son approche, hein. Créer des palettes de couleurs, mais par technique.
Exactement. Au lieu de simples rectangles de couleurs sur papier, il propose des nuanciers faits avec les vrais matériaux, les vrais mélanges, chaux, pigments, eau. Et surtout, il donne les formules pour que les artisans puissent les refaire.
Ça évite de perdre l'information en cours de route.
Voilà. Entre ce qu'on voit sur un vieux mur, ce qu'on imprime sur une plaquette et ce qu'on applique finalement avec une peinture moderne qui n'a plus rien à voir ni en compo, ni en texture, ni en vieillissement.
D'accord.
Il a même développé des outils comme des roues chromatiques pour aider à visualiser les harmonies possibles entre murs, encadrements, volets, en se basant sur ce qu'il a observé sur le terrain.
Et on peut même jouer avec ces techniques, créer des effets de vieillissement, des patines.
Oui, comme ça se fait beaucoup à Rome, par exemple, pour qu'une façade restaurée s'intègre mieux. Il a aussi repéré des associations de couleurs très subtiles dans les badigeons anciens, comme un ocre jaune avec un vieux rose un peu saumonné, presque violacé. Des harmonies qu'on n'inventerait peut-être pas spontanément aujourd'hui.
Après ces badigeons plutôt lisses, on passe à des textures différentes, les enduits fouettés ou au balai. On en voit parfois, ça a un aspect un peu particulier. D'où ça vient
Il en montre un exemple de 1783. Ben, c'est une histoire intéressante parce que la texture, ces sortes de petites vaguelettes ou coups de griffe, ce n'était pas le but au départ.
Ah bon ?
Oui, une méthode économique trouvée par les maçons pour utiliser des mortiers qui n'étaient pas top qualité. Souvent, ces mortiers contenaient trop de ce qu'on appelle des fines.
Des fines, c'est-à-dire ?
Des particules de terre ou de sable très très fines, presque de la poussière. Et le problème, avec un mortier trop riche en fines, c'est que si on essaie de le lisser classiquement, avec une taloche,
oui.
Il a tendance à craqueler finement en séchant. On appelle ça le faïençage. Ça fait plein de petites fissures, c'est pas très joli et ça peut fragiliser.
D'accord.
Donc, pour éviter ça, au lieu de lisser, on projetait le mortier, souvent assez liquide, sur le mur avec une branche souple ou un petit balai fait de branchage, d'où le nom « enduit au balai ».
Et le fait de taper avec le balai ?
Voilà. Le fait de taper doucement avec cet outil, ça faisait adhérer le mortier sans le comprimer. Et donc, ça évitait les fissures au séchage. La texture était une conséquence de la méthode.
C'est vraiment une technique d'adaptation aux matériaux qu'on avait sous la main.
Exactement. Une technique paysanne, comme dit Naples. On fait au mieux avec ce qu'on a. Il a d'ailleurs fait des essais lui-même pour retrouver le geste, comprendre comment doser les fines pour que ça marche bien.
Et la couleur dans ces enduits ?
Elle venait soit des sables éthers utilisés, soit parfois d'une patine colorée qu'on appliquait sur l'enduit encore frais.
Et il fait une proposition assez originale pour aujourd'hui, basée sur cette idée de patine, non?
Oui, c'est intéressant. Pour certaines zones protégées, ils se demandent si, au lieu de palettes de couleurs autorisées très compliquées, on ne pourrait pas simplement imposer une patine, un badigeon très aigé, faite avec une terre locale sur tous les enduits neufs.
Ça garantirait une harmonie naturelle.
Voilà, une intégration chromatique douce issue de l'environnement immédiat. Il cite l'exemple d'un artisan à Valergues qui a utilisé une terre locale dans une collature, c'est un badigeon un peu plus épais, enrichi en poudre de marbre pour obtenir la teinte demandée par l'architecte des bâtiments de France.
Malin. Continuons avec les enduits où la couleur vient vraiment du cœur de la matière, des sables, des terres. Là, on sent chez Nepple une pointe de regret.
Oui, un peu de frustration même, parce qu'il observe des enduits anciens qui sont absolument magnifiques, avec des couleurs, des textures uniques, grâce à des matériaux locaux très spécifiques. Il part de la ruf.
La roche rouge du Salagou, hein.
C'est ça. Ou de certaines pélites. Utilisées comme sable dans les enduits, ça donne des résultats splendides. Mais aujourd'hui, c'est devenu très difficile, voire interdit d'aller chercher ces sables locaux dans les petites carrières ou les rivières comme avant.
Donc on perd la possibilité de les refaire à l'identique?
Exactement. On perd cette richesse locale.
Et comment il fait pour savoir si la couleur d'un vieil enduit terreux était bien dans la masse ou si c'est juste de la poussière accumulée?
Ah, il a une astuce toute simple. Quand il trouve un morceau d'enduit tombé du mur, il regarde l'arrière, la face qui était collée contre la pierre.
Et alors?
Si l'arrière est de la même couleur que l'avant, ça veut dire que la terre colorée était bien mélangée dans tout l'enduit. Si l'arrière est différent, plus neutre, souvent la couleur de la chaux, ça veut dire que la couleur visible vient soit d'une patine naturelle, la grâce du temps quoi, soit d'une application volontaire en surface, comme un badigeon.
Malin. Et du coup, face à la difficulté d'avoir les sables d'origine, comment il essaye de s'approcher de ces teintes?
Sa démarche est très méthodique. D'abord, il collecte des échantillons des matériaux locaux encore accessibles, terre, sable divers. Il crée des échantillons de référence pour documenter ce qui existe. Ensuite, il essaye de contre-typer.
Contre-typer.
Oui, c'est le terme technique. Ça veut dire chercher à obtenir une teinte ou une texture les plus proches possibles de l'échantillon de référence, mais cette fois en utilisant des sables et des pigments disponibles dans le commerce.
C'est un vrai travail de recherche.
Ah oui, et il insiste sur un point important. Pour bien révéler la couleur naturelle du sable, il faut utiliser de la chaux, aérienne, la CL. Les chaux hydrauliques, même blanches, ont tendance à un peu éteindre la couleur du sable.
D'accord, c'est bon à savoir. Et il en profite pour démolir une idée reçue, celle de la pierre vue.
Ah oui, ces murs où on voit les pierres à travers l'enduit. On pense souvent que c'était fait exprès, pour l'esthétique.
Bah oui.
Alors que Nepple explique que, bien souvent, c'est juste le résultat de l'usure naturelle de l'enduit. L'enduit était appliqué en couches plus fines sur les pierres qui ressortaient le plus, et avec l'érosion, il a fini par disparaître là, laissant la pierre apparente. Ce n'était pas forcément un choix au départ.
Ah, d'accord. Je ne verrai plus ces murs de la même façon. Après les textures granuleuses, passons aux finitions plus lisses, les stucs et les enduits graissés. Le stuc, qui imite le marbre, c'est rare en Languedoc rural, d'après lui.
Oui, assez rare. On le trouve plutôt sur des bâtiments plus bourgeois, en ville, dans les châteaux. Mais il décrit une autre technique, proche mais différente, et assez fascinante, l'enduit graissé.
Comment ça marche ça, l'enduit graissé?
Alors, l'idée, c'est sur la dernière couche d'enduit de finition, pendant qu'il est encore fraîche, on applique une fine couche de chaux pure, en pâte, la chaux grasse. Et ensuite, avec un petit outil métallique bien lisse, on vient serrer cette pâte de chaux.
Serrer?
Oui, la lisser très fort, en la faisant pénétrer un peu dans la surface de l'enduit frais en dessous. Le but premier, encore une fois, n'était pas forcément l'esthétique, c'était technique. Ça renforçait la surface de l'enduit, ça la rendait plus dure, plus imperméable, de façon simple et rapide.
Et visuellement, ça donne quoi?
Ça donne un fini très lisse, mais avec un aspect satiné, un peu moiré, qui accroche la lumière différemment. C'est moins brillant, moins parfait qu'un vrai stuc poli, mais c'est plus subtil qu'un simple enduit juste à l'eau chauffante.
Intéressant.
Et Nepple a retrouvé des astuces d'artisan liées à ça. Par exemple, pour imiter des joints de pierre de taille sur un stuc ou un enduit graissé blanc, au lieu de se compliquer à peindre des lignes grises, il traçait juste les joints avec une mine de plomb. Du graphite, quoi. C'est rapide, net, efficace.
Génial. Et on peut adapter ces techniques aujourd'hui?
Tout à fait. Traditionnellement, ces enduits graissés étaient blancs. Mais rien n'empêche de colorer la chaux en pâte qu'on utilise pour le graissage avec des pigments. On obtient alors directement une surface colorée et satinée.
On peut combiner aussi?
Oui, on peut imaginer faire un graissage blanc, puis appliquer une patine colorée par-dessus, pendant que tout est frais, pour jouer sur les transparences. Naples va même plus loin, il suggère de créer des stucs uniques.
Comment ça?
Au lieu d'utiliser la poudre de marbre blanc habituelle, pourquoi ne pas utiliser de la poudre obtenue en broyant très finement des roches locales colorées, comme la ruffe rouge par exemple? On aurait des stucs avec une couleur et une texture directement issues du terroir.
Quelle richesse d'idées! Après la surface du mur, Naples s'intéresse aussi au décor peint et à la logique des couleurs pour les autres éléments. Pierre, menuiserie. Qu'est-ce qu'il observe en Languedoc pour les décors?
Il note que les décors peints sont souvent assez simples, assez répétitifs. On trouve beaucoup de fausses pierres d'angle, les chaînages harpés, des bandeaux peints sous le toit ou entre les étages. Parfois quelques motifs faits au pochoir.
D'accord.
Et il souligne un truc important. Voir des décors peints dans un village, ça ne veut pas dire qu'il y avait une grande tradition locale généralisée. Parfois, c'est juste l'œuvre d'un seul artisan, particulièrement doué ou équipé, qui est passé par là.
Ah oui.
Il cite l'exemple d'Agde où il a repéré le même motif au pochoir sur plusieurs maisons. C'est probablement le signe d'un seul artisan itinérant.
Et il donne cet exemple incroyable d'un mazet, une toute petite construction agricole paumée mais entièrement décorée.
Oui, ça le frappe beaucoup. Ce petit mazet perdu dans la garrigue, orné de faux encadrements, d'un faux volet en trompe-l'œil, d'une fausse chaîne d'angle. Pour Naples, ça montre la grande maîtrise technique des artisans d'autrefois, mais aussi la facilité, presque le jeu, avec laquelle ils faisaient ça. Ce n'était pas forcément une grosse commande, mais peut-être juste l'artisan qui se fait plaisir à la fin du chantier.
Impressionnant. Et pour la logique des couleurs, commençons par la pierre et la fausse pierre.
Alors là, évidemment, la couleur doit chercher à évoquer la pierre locale. Mais Naples remarque une tendance fréquente. Quand on imite une pierre, en peinture ou en mortier, on a tendance à forcer un peu le trait.
À la caricaturer.
C'est-à-dire?
Le basalte peint sera souvent plus noir que le vrai. La brique peinte, plus rouge vif que la vraie brique. On exagère un peu.
Et pour réparer la vraie pierre, il préconise quoi?
Il parle des mortiers pierre. Ce sont des mortiers faits en utilisant comme sable la pierre locale elle-même, concassée et tamisée. C'est la meilleure façon d'avoir un raccord invisible en couleur et en texture.
Logique. Il loque aussi l'usage historique du ciment prompt, ce ciment naturel qui prend très vite. Aujourd'hui, il faut l'utiliser avec beaucoup de précaution sur le bâti ancien, parce qu'il est très dur, très étanche. Mais on peut s'en inspirer, en le mélangeant de façon très contrôlée avec de la chaux pour atténuer ses défauts. Il a même trouvé un cas unique à Sommières, errait du ciment prompt coloré, avec plusieurs teintes appliquées à fresco sur rendu frais. Exceptionnel.
Incroyable! Et pour les menuiseries, volets, portes, quelle logique de couleur il observe?
En Italie, il remarque que, contrairement à ce qu'on imagine parfois, les couleurs des menuiseries sont souvent peu nombreuses et plutôt sombres. Vert foncé, brun, gris. Même sur la côte ligure, très colorée.
Ah bon?
Oui, et dans les endroits très blancs, comme Cadaqués en Espagne ou Mykonos en Grèce, où les couleurs vives des volets ressortent beaucoup, il observe que la palette reste en fait très limitée. 5 ou 6 couleurs différentes sur toute l'île de Mykonos, pas plus. C'est la répétition qui crée l'harmonie.
C'est contre-intuitif. Et en Languedoc, il a des pistes pour expliquer certaines couleurs récurrentes, les bleus-verts par exemple.
Oui, il avance une hypothèse intéressante pour ces bleus-verts qu'on voit sur de vieilles portes de granges ou de vieux volets. Ça pourrait venir de l'utilisation du sulfate de cuivre.
Le produit pour la vigne.
Exactement, la base de la bouillie bordelaise. Les vignerons utilisaient peut-être le fond de leur cuve de traitement, qui est fongicide et insecticide grâce au cuivre, pour badigeonner et protéger leur bois extérieur.
Astucieux. Du recyclage avant l'heure. Et pour les rouges, qu'on voit beaucoup aussi.
Là, il y a 2 pistes. La première, c'est le sandburf. Historiquement, on l'utilisait comme protection pour les bois, notamment les colombages. Naples compare la couleur historique retrouvée à Bayonne, un marron-rouge très foncé, couleur sans sécher, dit-il, avec le rouge plus vif utilisé aujourd'hui à Biarritz, qui copie l'idée du sang frais, mais pas la teinte réelle d'autrefois.
D'accord.
L'autre source possible pour les rouges, ce sont les peintures qu'on utilisait dans les caves vinicoles, souvent à base d'eau chlorée rouge et d'huile, pour masquer les taches de vin. Il est possible que cette peinture résistante ait aussi servi pour les portes et volets extérieurs des bâtiments viticoles. Mais il souligne que c'est souvent difficile d'avoir des certitudes. Les archives, les vieux devis sont souvent très vagues sur les recettes exactes.
Des artisans qui témoignent avec lui, au-delà des matériaux, des techniques, l'élément essentiel, c'est le savoir-faire.
Ah oui, ça.
Le plus important, c'est le savoir-faire, il le répète. Sans les artisans capables de maîtriser ces gestes, ces recettes, toute cette richesse, elle risque de disparaître.
Les défis sont énormes, c'est vrai. Il y a eu une perte de connaissances colossale. Avec les guerres qui ont décimé des générations d'artisans, puis l'industrialisation massive du bâtiment qui a favorisé le standardisé.
Et aujourd'hui, former la relève, c'est compliqué.
Très compliqué. Neps raconte, un peu amer, qu'il avait organisé une formation sur une technique pointue. Le seul artisan qui s'est inscrit était celui qui la maîtrisait déjà le mieux dans la région. Les autres, ceux qui en auraient eu le plus besoin, ne sont pas venus.
Il faut donc aussi que les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, reconnaissent la valeur de ces techniques et osent les demander, les exiger.
C'est fondamental. Noeps suggère, par exemple, que les aides publiques à la rénovation soient conditionnées non seulement à l'esthétique, mais aussi à la qualité réelle des techniques employées et à la formation des artisans. Il faudrait arrêter de subventionner sans réfléchir des solutions industrielles toutes faites qui parfois sont même néfastes pour le bâti ancien.
Et ça nous amène à un autre conflit fréquent, celui entre les techniques anciennes et certaines pratiques modernes inadaptées.
Exactement. On pense aux revêtements de sol étanches au rez-de-chaussée des vieilles maisons qui bloquent l'évaporation de l'humidité du sol et aggravent les remontées capillaires.
L'humidité qui monte dans les murs.
C'est ça. Ou encore l'isolation thermique par l'extérieur, ces manteaux isolants. Thermiquement, ça peut être bien, mais si c'est mal conçu, ça peut étouffer le bâtiment, empêcher les murs de respirer et masquer, voire aggraver des problèmes d'humidité ou de structure.
D'où l'importance d'un bon diagnostic avant d'intervenir.
Absolument essentiel. Comprendre comment fonctionne le bâtiment, quelles sont ses pathologies, avant de proposer une solution.
Bon, si on essaie de résumer tout ça, ce que nous montre Luc Meppel, c'est que la couleur d'une façade ancienne, ce n'est vraiment pas juste une question de goût sur un nuancier. C'est une histoire de matière, de technique, de savoir-faire, de dialogue avec le lieu.
Tout à fait.
Comprendre ce lien profond, c'est se donner les moyens d'intervenir de façon plus juste, plus respectueuse et finalement plus durable. Pour ceux qui voudraient creuser d'ailleurs, le blog de Luc Neps, Patrimoine Façade, est une vraie mine d'or.
Ah oui, c'est une référence. Et peut-être pour conclure cette exploration, une question qui reste ouverte. On voit toute la richesse de ces techniques traditionnelles. Mais comment on fait aujourd'hui face aux défis actuels?
C'est-à-dire?
Mais comment préserver ces matériaux, ces gestes, tout en répondant aux exigences d'aujourd'hui, comme le confort thermique, les économies d'énergie? Quelles pistes innovantes on peut imaginer pour concilier intelligemment le respect de ce patrimoine technique avec les besoins actuels, sans tomber ni dans la copie facile, ni dans des interventions qui abîmeraient ces bâtiments anciens?
Vaste question.
Oui, une question complexe qui invite à continuer la réflexion, la recherche et l'expérimentation.